monde d'Ulysse avec Kevin Gilbert sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde d'Ulysse, votre émission consacrée à l'histoire grecque. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à deux sites majeurs de l'archéologie française. L'un découvert il y a plus de 50 ans, plus précisément en 1953, il s'agit du site de Vix, et l'autre plus récemment, en 2015, il s'agit du site de Lavaux. Alors la particularité de ces deux sites, de Vix qui se situe donc dans le nord de la Bourgogne, en Côte d'Or, et celui de Lavaux donc, qui se situe dans la banlieue de Troyes, donc sud de la Champagne, c'est qu'il s'agit de deux sites funéraires, hein, de tumulus, donc de tumuli, princiers de la civilisation celtique du premier âge du fer appelé du Hallstatt. La particularité donc, de ces deux sites, c'est que dans ces chambres funéraires, on a mis au jour toute une série de mobilier pour accompagner le défunt dans un site et la défunte dans l'autre, pour l'accompagner dans l'au-delà. Et une majorité de ce mobilier funéraire n'était pas du tout de production et de provenance celtique, mais au contraire de provenance en partie méditerranéenne, grecque, italienne. Et justement, ces deux sites vont nous permettre de mettre un petit peu en lumière les circuits commerciaux, les circuits longue distance de cette fin du VIe siècle et de ce milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ. Nous allons d'abord nous intéresser au premier site, celui de Vix, le plus ancien. Alors, ce site de Vix a été découvert, fut découvert en 1953, plus précisément le 6 janvier, par un agriculteur du nom de Maurice Moisson. Mais il a été fouillé donc par René Geoffroy, donc l'archéologue responsable du site, l'archéologue à l'époque on pourrait dire en quelque sorte aujourd'hui amateur, hein, puisque nous sommes loin de la professionnalisation de l'archéologie. Et cette sépulture donc est située dans un champ sous un tumulus totalement arasé, dont on ne conservait, ne subsistait que des pierres un petit peu éparses, un petit peu répandu un peu partout, et ce qui va attirer donc l'attention des archéologues, cependant, miracle, le caveau va être totalement comblé de terre et a été resté totalement inviolé. Donc une fois dégagé, ce caveau va révéler donc être une tombe à char avec une contenance absolument impressionnante. On parle là d'un véritable trésor, puisque la femme qui abritait, dont le corps reposait dans ce caveau, va être très rapidement surnommée donc la princesse de Vix, ou encore la dame de Vix, et va livrer donc un important mobilier funéraire, de bijoux, de céramique, de vaisselle de bronze, mais surtout la pièce maîtresse de tout ce dépôt va être donc, et surtout de cette vaisselle, va être un cratère, et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, un cratère donc à volute en bronze, d'une contenance de 1100 litres, et il s'agit du plus grand cratère de l'Antiquité grecque que l'on a actuellement retrouvé. Donc, histoire de bien comprendre les choses, le plus grand cratère que le monde grec nous ait livré a été découvert donc, en périphérie du monde grec, en plein cœur du monde celtique, ou plus précisément à la périphérie ouest du monde hallstattien du premier âge du fer, d'où l'interrogation qu'on peut se poser. Que fait un mobilier aussi important, un mobilier, je vais vous le dire tout de suite, de prestige, dans cette périphérie du monde grec? Alors, le cratère en lui-même, donc c'est un mobilier donc vraiment remarquable par sa facture, ses dimensions. Hein. L'ensemble pèse aux alentours de 210 kg, hein, 208,6 kg exactement, pour une hauteur de 1,64 m. Alors il est constitué de plusieurs pièces réalisées séparément et assemblées. Alors dont la coupe, le couvercle, qui va servir de couvercle, qui va être en bronze martelé. Son fond est arrondi et son diamètre maximal est de 1,27 m. Alors, la capacité, je vous l'ai dit, est de 1100 litres. Hein. L'épaisseur moyenne de la paroi de ce cratère varie. Donc, elle varie de 1 mm à 1,3 mm. Donc, imaginez la finesse. Cette réalisation est une véritable prouesse technique. Hein. Vraiment, on est dans la maîtrise de l'art du bronze, des bronziers grecs hein, qui ont fabriqué ceci. Et lors de sa découverte, malheureusement, donc avec la pression des sédiments, hein, il va être l'effondrement du toit du caveau, du tumulus, le cratère a été retrouvé en partie écrasé. Et donc ce cratère possédait deux anses, et ces anses se retrouvent donc au niveau du pied. Donc on a eu tout un travail de restauration pour le retaper. Alors le pied, lui, de ce cratère est une pièce coulée, hein, d'un diamètre à la base de 74 cm, et il pèse à lui seul 20 kg. Alors il reçoit donc le fond de la cuve et assure donc la stabilité de l'ensemble. Alors lui est décoré de motifs classiques de végétaux. Les deux anses, elles, pareil, fontes en bronze, 46 kilos chacune, hein, donc pour un total qui avoisine les 100 kilos, en forme donc de volutes, d'une hauteur d'environ 55 cm. Alors elles sont très richement décorées, alors d'un monstre mythologique, il s'agit de la Gorgone, une Gorgone grimaçante, tirant la langue, avec des pieds de serpent qui vont s'évaser. Alors cette créature... Et traditionnellement l'ornement d'armes, et notamment de boucliers des Grecs, notamment pour ses vertus dites apotropaïques, c'est-à-dire qui repoussent les forces du mal. Ce cratère possède également une frise, alors une frise richement décorée de hoplites, donc de soldats portant la panoplie, qui vont décorer donc tout le col, qui est donc un cercle rapporté en serrant le haut de la cuve et supportant donc les anses. Alors, en plus de ces hoplites, on possède sur cette frise 8 quadriges, donc c'est-à-dire 8 chars tirés par 4 chevaux, conduits par un aurige de plus petite taille. Alors, suivant donc la règle de la représentation de l'époque, qui est une nécessité pour la composition, donc sont suivis chacun par un hoplite à pied et en arme. Alors, cette frise est également un chef-d'œuvre hein, du bas-relief grec. Le couvercle, lui, est composé d'une feuille de bronze martelée et pèse à lui seul environ 14 kg et couvrait donc l'ouverture du cratère. Il était perforé de multiples trous qui font penser qu'il servait peut-être, hypothèse, de passoire. En son centre, on observait donc un ombilique qui supporte une petite statuette. Alors la statuette justement de ce couvercle est-elle également en bronze et mesurait environ 20 cm de haut et représentait une femme une main en avant et tenant peut-être un objet maintenant perdu. Donc elle est vêtue dans ce qu'on appelle un péplos, donc une sorte de tunique, et la tête était recouverte d'un voile. Alors cette statuette de bronze de facture manifestement locale, donc pas grecque pour le coup, est totalement dans son style, en tout cas différente des autres éléments du vase, d'où l'hypothèse d'un rajout un peu plus tardif. Alors le rôle du cratère dans l'Antiquité était destiné donc à composer un mélange entre le vin, toujours bu, dilué avec de l'eau dans l'Antiquité, et agrémenté de divers aromates, des épices notamment. Alors, la boisson y était ensuite puisée et distribuée aux convives lors de célébrations rituelles ou festives. Donc là, on est en plein dans le rituel grec du banquet, le symposion. Alors, le cratère de Vix, étonnant par ses proportions, et le chemin qu'il a dû parcourir pour parvenir donc des ateliers de production jusqu'à cet oppidum de Bourgogne, pose de véritables questions. En tout cas, il s'agit d'un extraordinaire témoignage, d'une part, de la maîtrise technique de l'Antiquité, de la fin de la période archaïque pour les Grecs, et aussi de la capacité à faire circuler donc, de grands objets, de magnifiques objets de prestige. Et en tout cas, ce grand vase de prestige était certainement bien trop grand pour être utilisé, en tout cas par la finesse de sa panse, hein, je vous rappelle un millimètre, et en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'il a été démonté, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard, durant cette circulation. Alors l'hypothèse la plus probable, je vous le dis tout de suite, c'est que ce fut très certainement donc un cadeau, peut-être un cadeau diplomatique, relevant peut-être de dons mutuels entre princes et puissants, donc là on est vraiment dans le monde des élites. Alors son enfouissement dans le tumulus a dû donc être suivi donc relativement rapidement, donc peut-être par un déclin de la principauté, puisque nous sommes dans les années 500, c'est-à-dire à la fin du monde hallstattien, la fin de la société dite princière pour cet âge du fer. Et en tout cas, il a été retiré du monde du vivant, donc un lien pas personnel avec la princesse de Vix, mais en tout cas un lien très fort avec son rôle aristocratique. Alors, cette tombe princière est également à mettre dans son contexte avec le site de Vix en lui-même, puisque les fouilles ont encore lieu actuellement par l'équipe de l'Université de Bourgogne. Et sur ce site, on a découvert donc toute une série de bâtiments supposés être des bâtiments princiers, donc très certainement un palais. Et l'architecture de ce tumulus donc, nous renvoie justement avec l'autre site dont j'ai parlé en introduction, le site de Lavaux, où on retrouve en tout cas un mobilier tout à fait commun. Et concernant justement la provenance de tous ces matériaux, je vous ai surtout parlé du monde grec, mais plus précisément, il s'agirait du monde grec italien, donc du monde de la Grande Grèce, mais également de l'Italie du Nord et là du monde étrusque, notamment pour les bronzes qui accompagnaient les objets en lien avec le rituel du banquet. Alors, dans ces deux cas, on a également une série de matériaux fabriqués sur place, hein, il ne faut pas non plus les négliger, d'une très grande finesse, notamment je pense au site de Lavaux, où les archéologues donc, en 2015 ont réussi donc, à extraire une dague et surtout un fourreau avec un décor absolument, une sorte de petite rosace absolument, absolument magnifique. Tout ça pour vous dire que nous sommes donc dans une société princière, capable de capter toute une série de mobiliers provenant donc du monde méridional. Ces deux sites, celui de Vix ou de Lavaux, le point commun effectivement tourne d'un objet, il s'agit du cratère. Donc le cratère, objet important donc, dans le monde grec, puisqu'il était l'élément essentiel, du moins le plus parlant de la cérémonie dite du banquet. Alors le banquet, c'est vraiment le symposium, un instant très ritualisé où les convives mangeaient, mais surtout buvaient et pratiquaient certains sacrifices. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a une transposition du modèle grec qui va avec la circulation de l'objet ? Ça, c'est pas vraiment sûr. Mais en tout cas, si pour le site de Vix, la contenance... Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si la contenance est à déterminer, on sait que certains grands cratères, notamment celui de Lavaux, lui, contenaient non pas un liquide, donc un breuvage autochtone, comme on aurait pu le penser, de la bière ou de l'hydromel, ou de l'alcool de fruits, mais du vin rouge. Donc on est là face à une importation méditerranéenne, donc à la fois pour l'objet et aussi pour son contenant. Le cratère de Lavaux donc, possédait aussi des décors magnifiques, là non pas de Gorgone, mais du dieu, une petite figure du dieu donc, Achelos, hein, donc le dieu fleuve. Il s'agirait là plus précisément d'une production, si ce n'est grecque, du moins étrusque. Et justement, dans la mythologie, le dieu Achelos renvoie directement au mythe de la corne d'abondance. Et justement, ce qui permettrait de faire un lien direct avec le banquet, le cratère et l'abondance du repas durant le banquet. Et les analyses ont permis aussi de mettre en évidence la présence d'un enduit donc de poids, du moins une résine. Alors, non pas pour étanchéifier le récipient lui-même, parce que le bronze est bien évidemment étanche, le cuivre, mais surtout pour empêcher que le goût du métal n'imprègne le liquide. On a découvert aussi toute une série, donc dans les deux sépultures, tous les éléments du banquet, notamment des œnokoé, c'est-à-dire des figures là à figure noire, des récipients qui permettaient donc de puiser dans le cratère le mélange eau et vin, ainsi que des cistes, c'est-à-dire là des récipients en bronze qui étaient eux chargés de contenir l'eau qu'on allait verser ensuite dans le cratère. Et dans le cas de Lavaux, le Nokoé, donc qui est style attique, qui possédait une scénette de banquet dionysiaque, avait une particularité, une sorte d'amélioration avec une décoration métallique, mais là purement faite sur place, faite donc par les Celtes. Alors, il y en a deux, c'est-à-dire des filigranes et des sortes de petites palmettes qui, elles, sont vraiment, vraiment une transposition du modèle étrusque, en tout cas. Alors qu'on a des feuilles d'argent qui forment une sorte de masque, puisqu'on a le modèle typiquement celte de la couronne en feuilles de gui, symbole des élites hein, du la fin du 6e et du 5e siècle, et elle, c'est typiquement une influence celtique. Donc on est vraiment, à travers l'exemple de cette Nokoé, dans le mélange des cultures, le brassage des cultures entre le monde méditerranéen, grec, étrusque, et celui du monde celte. Donc à la fois dans les objets, dans la manière de les améliorer et dans la manière de les utiliser. Donc concernant la provenance d'une grande partie du mobilier, il ne fait aucun doute donc qu'ils viennent largement donc du monde grec, plus précisément de l'Italie. Alors pour le cratère de Vix, la première hypothèse était une fabrication laconienne, donc c'est-à-dire de la cité de Tarente, donc la colonie de Sparte, mais cette hypothèse a été un petit peu mise de côté. On a préféré y voir une production de la cité d'Italie du Sud, pas très lointaine de Tarente, mais plutôt de Sybaris, quand on a mis au jour les Hérones, c'est-à-dire des tombeaux de héros sur l'agora de la cité, et on s'est rendu compte que dans le style, on était proche de la cité. Alors si ce n'est pas Sybaris, c'est une cité qui est très proche d'elle. Et la date, en tout cas, avec l'interprétation stylistique, nous amènerait autour des années 530-500 pour une inhumation qui fait de moins en moins débat, qui tournerait aux alentours des années 510-500 pour Vix. Et on serait plutôt autour de la première moitié du 5e siècle pour la tombe de Lavaux. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment amener toute une série de matériel prestigieux dans des contrées aussi lointaines pour l'époque. Alors là, pareil, deux hypothèses se sont affrontées pendant un certain temps. Alors la première, c'était l'hypothèse alpine, c'est-à-dire de passer par l'Italie du Nord, franchir les Alpes, le Jura, la Suisse, et enfin arriver dans le nord de la Bourgogne. Mais l'hypothèse la plus admise actuellement serait l'hypothèse rhodanienne. Donc on aurait donc, par l'accès de la cité grecque de Massalia, fondée par les Phocéens en 600, remonter le Rhône, puis la Saône, et enfin, pour entrer en contact avec cette société princière de l'Occident, hallstattien. Donc, je vous rappelle que le vase de Vix a été démonté, hein, notamment. Alors, la panse était, elle, en un seul bloc, mais par contre, le pied et les hanches, elles, pour le coup, étaient démontables, notamment pour le voyage et le transport. Et la question qu'on peut aussi se poser dans ce cas-là, c'est pourquoi ? Quel intérêt pour une société du périphérique du monde grec de capter des objets aussi prestigieux? Alors pour le comprendre, il faut mettre en évidence le fait qu'on avait donc dans la société celtique, on n'était pas dans une société barbare, isolée, violente, on était aussi dans une société qui était raffinée, qui était hiérarchisée et qui était en contact avec les civilisations voisines, notamment les civilisations méridionales. Et quand on regarde un petit peu autour, on se rend compte que dans les années 540-530, on a toute une série de matériels méditerranéens, et notamment d'amphores, qui contenaient donc du vin et de l'huile, en provenance de Marseille, sur des sites tout du long de l'axe et de la voie Rhône-Saône, notamment à Lyon. Hein, pour la fourchette 525-500, on a un peu plus de 3000 amphores qui ont été découvertes. Hein, donc c'est la fourchette basse, qu'on pourrait dire, puisqu'on a encore des découvertes à faire dans ce domaine. Mais en tout cas, ce ne sont pas donc des circulations isolées. Hein, on a donc énormément d'exemples de puissantes chefferies, de puissantes sociétés princières, de puissants princes, de puissants aristocrates locaux qui sont capables de capter, d'amener à eux des objets de prestige sur des voies commerciales assez empruntées, assez utilisées avec le monde celte. Mais, on a aussi des circuits commerciaux qui permettent de raccorder le monde hallstattien, donc la France orientale est une périphérie de ce monde hallstattien, et la périphérie la plus occidentale, avec aussi les territoires de la mer Baltique, puisqu'on a retrouvé toute une série de produits, de bijoux en ambre. Donc, on est dans une sorte, on pourrait dire, pardonnez-moi l'expression, mais de mondialisation avant l'heure, où le monde celte, dans la tradition, serait en périphérie du monde méditerranéen, mais on se rend compte que c'est plus tout à fait vrai. Et justement, concernant ces échanges, on a eu longtemps deux hypothèses qui se confrontaient. les deux hypothèses de ces échanges entre le monde celtique et le monde méditerranéen, plus particulièrement le monde grec, étaient donc d'un côté la théorie donc, de l'échange inégal et celle du paradoxe, on pourrait dire. Alors, quels ont pu être donc, les intérêts donc, des sociétés, des princes hallstattiens à rechercher, donc, à posséder des biens, des objets de prestige et à accepter une sorte de déséquilibre des échanges, question. Bah, la réponse à cette question justement passe en premier lieu donc, par l'analyse des termes de l'échange pur et des conditions dans lesquelles il s'opère, puis dans un second lieu, par la définition des intérêts stratégiques et surtout sociaux en jeu. Donc là, pour bien comprendre la nature de l'échange, il faut comprendre la société qui accueille l'objet en lui-même. Alors la théorie de l'échange inégal, c'est un modèle d'échange qui permettrait de mieux cerner donc en théorie les composantes des transactions entre monde hallstattien et méditerranéen. Alors c'était une théorie qui date des années 1970, et cette théorie qui est bien contestée aujourd'hui signifierait qu'en fait la société hallstattienne accepterait en quelque sorte une sorte d'inégalité de l'échange, et pour simplifier un petit peu les choses, accepterait donc en échange donc de faire partir vers le monde méditerranéen donc des biens tels que des denrées agricoles, des ressources minières, notamment le fer, hein, région Bourgogne est riche en fer, des esclaves comme main d'œuvre ou comme soldats en valeur d'échange de ces biens de prestige. Donc c'est une vision qui est un petit peu régressiste hein, pour la société hallstattienne, et on lui préférera le paradoxe de l'échange. Alors, la société aristocratique hallstattienne, là, dans cette optique-là, accepterait une sorte de, non pas de soumission, mais en tout cas, il faut refuser l'idée d'une exploitation, en tout cas directe, hein, du monde hallstattien. Hein. Je voulais essayer d'expliquer que si on considérait qu'en théorie, le monde hallstattien est une périphérie du monde grec, c'est un fait, mais le monde hallstattien n'est pas une périphérie en tant que telle. C'est un monde, une société organisée à part entière qui est en contact avec le monde grec. Mais en tout cas, on ne peut pas nier justement ce besoin, en tout cas, en objet de prestige. Et pour comprendre ce besoin en objet de prestige, il faut comprendre que la société princière hallstattienne, c'est une société où les élites sont chargées justement de la redistribution. Et d'où l'intérêt d'avoir des objets classiques du banquet grec. En tout cas, si on n'adopte pas le modèle en tant que tel 100% grec, on utilise un banquet d'une autre manière. Et notamment en invitant des clients, des personnalités importante, mais en dessous, hein, là, je vais utiliser pour vous compreniez mieux un terme impropre, mais celui de vassal. Et justement, sa capacité à être au-dessus, à être un aristocrate, à dominer la société, dépend de sa capacité à capter, en quelque sorte, ses objets de prestige. Et tout l'enjeu est là. Nous sommes donc sur deux sites, Lavaux, Vix, témoins en tout cas d'une réalité. Première réalité, le contact important et fréquent des sociétés grecques, notamment la société grecque phocéenne de Massalia, celle du monde aussi étrusque et celle d'Italie du Sud. Et aussi, l'autre réalité qui est mise en évidence, c'est celle d'une société celtique, d'une société princière, qui domine donc la période de ce premier âge du fer, dit du Hallstatt. Donc cette fin du Hallstatt, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des années 500, 400, 450, et qui est capable de faire venir à elle des objets prestigieux, des objets en lien direct avec un mode de vie grec, le banquet, mais qui pour autant n'adopte pas totalement son mode de vie, mais s'approprie des objets prestigieux, des objets qu'on pourrait qualifier, si on se place dans la peau d'un celte de cette époque-là, exotiques, et qui lui permettrait justement de montrer sa supériorité sociale par rapport aux autres. Et va de pair avec cette capacité à amener à soi des objets de prestige, des objets entre guillemets courants qui accompagnent le banquet, une série de produits de consommation tels que le vin ou l'huile, et d'où l'intérêt justement d'observer ce monde grec en lien avec ses voisins, c'est de se rendre compte que le monde grec n'est pas un monde totalement isolé mais en contact, et comme nous pourrons le constater durant d'autres émissions, les contacts fréquents entre sociétés autochtones et colonies grecques d'Italie ou de Gaule du Sud sont révélateurs justement des échanges intenses qui existent dès l'Antiquité. C'était Le Monde d'Ulysse. Je vous retrouve le mois prochain pour découvrir à nouveau l'histoire grecque et l'histoire également de ses voisins.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.